Le symbole de Saint Ananas. Il a souffert sous, pour notre salut, il est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Donc le jugement dernier, ça sera tous les jugements particuliers rendus publics pour que tout le monde sache tout. Et comme il y aura quelques milliards de personnes qui vont mourir au jugement dernier, toutes ces injustices seront aussi connues. Vous voyez? C'est tout, vous voyez, toutes les théories du complot auront leur fin mot. On saura qui a fait Pearl Harbor, qui a fait le 11 septembre, et tout ça, on va tout savoir. À sa venue, tous les hommes ressusciteront avec leur corps et rendront compte de leurs propres actes. Ceux qui ont bien agi iront dans la vie éternelle, ceux qui ont mal agi au feu éternel. Telle est la foi catholique. Si quelqu'un n'y croit pas fidèlement et fermement, il ne pourra être sauvé. Oui. Donc, pour ceux qui ne sont pas catholiques, ils doivent y croire indirectement par une très grande franchise de vie. Mais un prêtre aztèque qui arrachait les cœurs et coupait les têtes, il doit renoncer à sa fonction, parce qu'elle est un peu contraire à ce que la grâce peut lui inspirer dans une vie paisible et saine. Donc s'il persiste dans son métier, il se damne. Voilà. Le quicumque, quiconque, aurait été composé en latin au début du VIe siècle, dans les années 500. On l'attribue à Saint Athanase, qui a vécu dans les années 300. Donc c'est toujours la même chose. Hein. Ah non, c'est plus tardif. Mais s'il y a des versions plus tardives, il faut bien vous dire que la version originale, si on dit qu'elle est de Saint Athanase depuis des siècles, c'est que c'est lui qui l'a écrite, qu'elle a pu être complétée, qu'elle a pu. Mais c'est Saint Athanase qui en a composé le texte. Après, il y a pu y avoir quelques rajouts. C'est la seule chose qu'on peut concéder. La première mention qui en est connue se trouve dans un sermon de Saint Césaire d'Arles. De la Gaule, alors Saint Césaire d'Arles, il vivait, lui, alors, Saint Césaire d'Arles, je crois que c'est. Ça doit être justement les années 500. Il est tout juste. De la Gaule, il rayonne dans les pays voisins, en Espagne, en Afrique. Et en 633, le quatrième concile de Tolède, en Espagne donc, présidé par Saint Isidore de la ville de Séville, en incorpore dans sa déclaration doctrinale des fragments. Il est signalé dans le canon du concile d'Autun, tenu en 670, sous l'évêque Saint Léger. Au 8e siècle, dans les années 700, Boniface l'introduit en Allemagne, Saint Boniface, comme chant d'église. Il est connu en Angleterre. L'Église romaine l'a connu dès le 9e siècle, mais il ne pénétra que plus tard dans l'office romain. Au Xe et XIe siècle, il est récité tous les dimanches et en France tous les jours à l'office. Et vous comprenez que c'est, on n'avait pas envie de ne pas rester catholique, puisque au début et à la fin, il dira, il périra sans doute pour l'éternité. Le symbole de Nicée-Constantinople. Et je passe. Par son conséquent, le Christ est dit Verbe du Père, parole du Père. Donc quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, on simplifie. Il est le Fils de Dieu, le Père. consubstantiel et égal au Père. C'est un dogme. C'est-à-dire, c'est une vérité claire, nette, enseignée par l'Église. Le Christ est Dieu, de Dieu, engendré, et non fait ou créé. Fils unique, une des trois personnes de la Sainte Trinité. Mais le Christ est vrai homme, vraiment engendré d'une mère humaine. C'est-à-dire qu'il a vraiment la nature humaine. Donc la Vierge Marie, elle est la mère de la nature humaine de Jésus. Sauf qu'une nature humaine n'existe pas comme ça. Bonjour, je suis une nature humaine. Je suis une intelligence et une volonté et un corps, mais je dis rien. J'ai pas de personnalité. C'est une nature humaine flottante. On est la mère ou le père d'une personne, d'un sujet de... Ça m'échappe. C'est le mot qui m'échappe. C'est un sujet d'attribution. On attribue quelque chose à quelqu'un. C'est quelqu'un. La Vierge Marie, elle est la maman de quelqu'un. Elle n'est pas la maman de la nature humaine. Elle transmet la nature humaine, mais elle n'est pas la maman d'une nature humaine. Elle est la maman de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et Jésus, il est Dieu et homme. Dès que le Fils, Dieu le Fils, assume la nature humaine, il prend le nom de Jésus. Avant de s'incarner, Jésus, suivez-moi, n'était pas Jésus. Voilà. Il s'appelle Jésus du moment où il a une nature humaine. C'est le prénom qu'on lui donne en tant qu'homme. Avant l'incarnation, avant Noël, Jésus, il s'appelle le Fils, le Verbe, la sagesse éternelle du Père. Et, mais du jour de l'incarnation, on peut toujours l'appeler le Verbe, la sagesse éternelle du Père. Enfin, il est Jésus. Voilà. Et maintenant, actuellement, imaginez, c'est différent, comment, il faut pas imaginer, paraît-il, en théologie, normalement. Mais Jésus, il a toujours son corps avec lui. Il est dans son Père, le Père est en lui, dans la substance divine, mais Jésus a son corps, il a son corps. Toujours. Ben oui, ça y est, c'est fini, il a un corps, et il a un corps. Il se promène toujours avec son corps.
Éternel.
Éternellement. Au point que quand Philippe dit « Montre-nous le Père et ça nous suffit », on voudrait voir le patron, en fait. Et Jésus dit « Qui me voit, voit le Père ». Parce qu'en effet, dans sa substance divine, il y a l'amour. Et l'amour, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pas que le Saint-Esprit. Dieu est amour. Dieu est une relation de Père à Fils. Relation d'amour. Oui.
Jusqu'à quel point est-ce qu'il s'appelait Emmanuel ?
Pour le coup, Emmanuel, c'est son nom en tant qu'incarné. En tant qu'incarné. C'est son deuxième prénom, en quelque sorte. Il y a Jésus, Emmanuel, voilà, Louis, Robert, Marie. Non, c'est Jésus, Emmanuel. Mais Emmanuel, c'est Dieu au milieu de nous.
Et il a gardé Emmanuel même maintenant.
Ah oui, bien sûr, il est toujours l'Emmanuel. Mais c'est un nom qu'on lui donne en tant qu'il est incarné. On l'appellera Emmanuel, nous dit le prophète. Donc, ça veut dire qu'il ne l'est pas encore. Dieu parmi nous. On l'appellera Emmanuel. Et... Alors, le Christ a une âme raisonnable, vraiment humaine et intellectuelle, qui n'a pas existé avant son incarnation. Alors là, vous allez être sciés, Jésus a deux esprits, ça c'est sûr. Il est esprit éternel et esprit créé. Sauf que l'esprit créé, l'âme humaine de Jésus, est assumé personnellement par la personne du Fils. La nature humaine de Jésus n'a pas d'autonomie personnelle.
Ah, d'accord. Donc en fait,
il n'y a qu'un seul je.
Moi, ça me dérange un peu.
Ah ben oui, c'est ce qu'on appelle la... en termes techniques et théologiques, c'est la distinction des idiomes. Ne me demandez pas ce que ça veut dire exactement.
Pour moi, c'est...
Jésus peut dire...
Jésus était un pantin et c'est Dieu qui est dans Jésus.
Non.
Et Jésus, on ne sait plus qui c'est, on a l'impression
qu'il... Eh bien justement, c'est la raison pour laquelle...
Il n'y a pas...
Jésus... Mais, eh bien, je vais vous... C'est comme une personne qui aurait la double nationalité. Ou qui parlerait anglais et français. Quand il parle français, on dit « Ah, mais c'est un français !» Et quand il parle anglais, on dit « Mais c'est un anglais !» Eh bien, il est les deux. Mais quand il parle français, il ne parle pas anglais. Et quand il parle anglais, il ne parle pas français. En Jésus, il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Et « Mon père est plus grand que moi, parce que je suis fils d'Adam. » Et il revendique son humanité à certains moments. Il a un double, comment dire, une double nature. Donc il a deux identités, deux nationalités. Mais quand vous avez un père qui est français et une mère qui est, chinoise... Ça se voit mieux, vous êtes eurasien. Les eurasiens, ils ont... Ah, lui, il n'est pas tout à fait européen, mais il n'est pas tout à fait asiatique, on ne sait pas. Vous voyez? Moi, quand je suis arrivé au séminaire, on m'a dit, tiens, un chinois. Alors, c'est vrai que j'ai les yeux un peu, comment dire, fins. Mais on n'a pas d'ancêtre asiatique. Ça serait amusant, dans la vie éternelle, de savoir est-ce qu'il y a des influences sur l'ADN à partir de rayonnements. Je ne sais pas, parce que mon grand-père a été en Indochine pendant plus de 10 ans, avant que je sois conçu. Donc peut-être que mon grand-père a eu des rayonnements venant de machin. Là, c'est peu scientifique. Oui, mais bon...
pas du massif central.
Non, comment?
Vous n'êtes pas du massif central.
Par ma mère.
Eh ben, c'est ça.
Ah bon?
Oui, bien sûr.
Ah, peut-être aussi. Mais normand aussi. Normand, normand, breton et limousin. Plutôt, limousin. Le Christ a une âme raisonnable, vraiment humaine et intellectuelle, qui n'a pas existé avant son incarnation. Ça, c'est deux fois. Le Christ a un corps humain, c'est-à-dire une vraie chair humaine, non imaginaire ou fantomatique. Il a un vrai corps. On peut le gifler, on peut le clouer à une croix. Ce corps du Christ a été uni dès le commencement de l'incarnation à la divinité. Donc, dès la conception. Alors, la conception de Jésus, c'est un peu particulier, parce que à partir d'une cellule de la Vierge Marie, il y a eu quand même création d'un chromosome XY. Puisque la Vierge Marie est une femme. Mais imaginez, il n'y a qu'un seul chromosome créé par l'Esprit Saint, par la divinité. Tout le reste du patrimoine génétique du Christ vient de la Vierge. On dit, dans la tradition orale, que le Christ et sa mère se ressemblaient énormément, puisque ce n'est pas du 50-50, c'est du 99%, enfin c'est du... Donc, il ressemblait beaucoup à sa mère.
Mais... Pourquoi vous dites que ce n'est pas 50-50? Parce qu'en fait, c'est...
Ben parce qu'il n'a pas de père humain. Il n'a pas 50% de la Vierge Marie.
Oui, mais la mère...
Il a plus.
Oui, mais la mère a apporté que le X. Parce qu'avec la mère.
Oui, mais le Y.
Et l'Y, c'est l'Esprit Saint.
Oui, mais. Oui, mais
donc ça fait XY, donc techniquement, c'est bien 50.
Oui, mais il y a d'autres paires de chromosomes quand même, hein. Il n'y en a pas que deux.
Oui, mais.
Il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y en a combien de paires de chromosomes 36. Chez l'être humain 36. 46, pardon. Donc il y en avait que 23. Donc il y a un Y, il y a XY, mais tous les. De 1 à 45, c'est que maman. Tandis que d'habitude, c'est 23 mamans, 23 papas.
Ah, monsieur le curé, je crois que à partir du sang, du linceul, on a montré qu'il y avait 23 chromosomes. Il n'a effectivement que ceux de sa mère. Et ça a été révélé par les...
Ça, il faudra bien vérifier. Comment ?
Dans l'analyse, les analyses qui ont été faites du Saint-Suaire, il y a une histoire de sang, mais je ne sais pas très bien comment.
Oui, mais ça, il faut bien vérifier, je n'ai jamais entendu dire.
Vous avez l'air de dire.
Oui, mais alors là, ça présenterait un petit problème, vous voyez. Parce que 23 chromosomes, il ne serait pas un être humain. Vous voyez. On en a 46.
Tout est miraculeux chez lui, de toute façon.
Oui, enfin, son corps. Non, il a un vrai corps. C'est pas un... Est-ce qu'on peut avoir un corps humain avec que 23 chromosomes? Je ne pense pas. Vous allez voir quelques petits manques, vous voyez. Ben, voilà, vérifiez votre source.
Je peux poser, ouais.
Oui.
On dit que Jésus donc, a une âme humaine et...
un esprit divin. Éternel, divin.
Divin, un esprit divin. Donc il devait être tiraillé un peu, non? Parce que,
Non, parce qu'il a une seule personne. Donc il a une seule pensée... pour ces deux natures.
D'accord.
Oui. Donc, un moment, il pense homme, un moment, il pense Dieu. Oui. Mais, une seule pensée. Oula, je vais finir hérétique. Il a une seule personnalité. Il sait qu'il est Dieu, il sait qu'il est homme.
Parce que, j'ai lu juste une petite phrase.
Mais dans l'agonie, au jardin, là, pour illustrer ce que vous dites, dans l'agonie au jardin des Oliviers, il est homme, hein. Vraiment homme. Et on dit qu'il chasse sa divinité à la fine pointe de son âme, parce que il va se plonger dans la peur et dans le dégoût de la mort.
Par exemple, il a peur de la mort.
Oui, mais ça en tant qu'homme.
Voilà. Mais en tant que...
En Dieu, il n'en a pas peur.
Hein.
Voilà. Aucun problème.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on...
Ben voilà. Mais maintenant qu'il est homme...
Il a souffert.
Oui. Et donc, c'est la raison pour laquelle on estime que sa puissance divine et son esprit divin c'est pas retiré, mais c'est... l'expression utilisée, elle existe, hein, c'est qu'elle s'est retirée à la fine pointe de son âme. Parce que l'âme de Jésus est plongée dans la vision béatifique, en plus. Jésus est tout de suite, en tant qu'homme, sauvé. Il n'a pas eu à mériter, il est immédiatement sauvé. Dans la vision béatifique. Il ne peut pas y avoir cette union entre la nature divine et la nature humaine sans qu'il y ait une vision commune. Enfin, commune. L'âme humaine du Christ voit Dieu. Voit la nature divine. Il est immédiatement bienheureux. C'est la raison pour laquelle le miracle de la transfiguration, en fait, ça aurait dû être l'état normal du Christ. Parce que son âme humaine étant plongée dans la nature divine, sans être confondue, hein, mais vivant dans la nature divine, le corps doit en être transformé. Encore glorieux. Donc que le corps de Jésus soit passible, voyez, qu'il puisse être frappé et s'abîmer, ça c'est un miracle inversé, si vous voulez. C'est un miracle de souffre. Il empêche l'effet salvateur de cette vision pour pouvoir mourir.
Il accepte.
Voilà.
J'ai envie de dire, il accepte.
Il veut que son corps soit passible. Puisse souffrir.
D'accord.
En soi, il pouvait l'empêcher. D'ailleurs, ceux qui sont en bas de la croix, ils disent « Bah alors, si t'es le Messie, descends !» Imaginez que Jésus soit mis en colère une seconde. Et « Fling !» il refait son, comment dire, il se fait en parfaite santé, schlac, et il descend au pied de la croix. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit. Qu'ils pouvaient le faire, justement. Et malheur à eux qu'ils ne l'aient pas fait. Enfin, non, au contraire, bonheur pour eux qu'ils ne l'aient pas fait et qu'ils aient continué à souffrir et à mourir. Imaginez qu'ils aient dit, bon, ben, si c'est comme ça, ça ne sert à rien, allez, je ne meurs même pas. Boum. Donc, il sort de la croix, il ferme même les blessures. Fini. Là, il y a le père qui dit, mais il fallait les sauver. Ah non, ça va pas. C'est bon. Hein. En plus, il m'insulte. Ma mère pleure comme c'est pas possible. Elle est malheureuse comme tout. On arrête tout. Et là, nous, on est là. On n'est pas sauvés. Parce que c'est sa mort qui est méritoire. Une seule goutte de sang était déjà une injustice. À la circoncision, Jésus nous a déjà sauvés. Quand on lui coupe le prépuce et qu'il y a une goutte de sang, il nous sauve. Et c'est une belle prière qu'il y a, il le dit. Une seule goutte de sang nous aurait sauvés. Alors, le Christ a un corps humain, c'est-à-dire une vraie chair humaine non imaginaire. Ce corps du Christ a été uni dès le commencement de l'incarnation, à la divinité. L'âme du Christ est vraiment par elle-même et essentiellement la forme de son corps. C'est-à-dire, c'est pas la divinité de Jésus qui fait vivre le corps de Jésus, c'est l'âme. C'est vraiment une nature humaine, hein. Il a vraiment une nature humaine. Toutefois, ici, voyez-vous, il est Dieu quand même, et il ne permet à personne de le tuer. Ce qui fait que il y a quelque chose qui est un peu pointu à vous dire, mais je vous le dis, c'est que le Christ a décidé du moment de sa mort. Et d'ailleurs, le centurion et les soldats sont étonnés qu'il meure aussi vite. Mais là, le Christ dit, personne ne prend ma vie. C'est moi qui la donne et c'est moi qui la reprend. Donc à un moment donné, le Christ crie et meurt. Il fait sortir son âme de son corps. On dit, mais il s'est suicidé? Non. Il allait mourir de la main. Mais il décide du moment où l'âme sort de son corps, dit-on. Donc c'est pas un dogme, si vous voulez, mais ça fait partie de la finesse théologique. Et d'ailleurs, quand le centurion et les soldats l'entendent crier, là, ils sont... Comment hein? Parce qu'un crucifié meurt asphyxié. Et même dès le début, si vous voulez, ils sont comme ça, ils ne peuvent plus parler, et crier encore moins. Oui. Dans le Christ, il y a deux natures qui diffèrent substantiellement et qui sont cependant inséparables, qui ne sont pas divisées, c'est pas deux choses, elles sont unies, si vous voulez, elles sont accolées, elles sont pas, éloignées l'une de l'autre. Inconvertibles l'une en l'autre, et inconfuses, c'est-à-dire elles ne sont pas confondues, elles ne sont pas mêlées. C'est pourquoi il faut dire que la personne du Christ est composée de deux natures qui existent en deux natures unies. Chacune des deux natures du Christ garde ses propriétés, son intelligence et sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Jésus a une volonté humaine et il a une volonté divine. Et là, il y a eu des disputes, il y a actuellement des orthodoxes qui sont monothélistes, c'est-à-dire qui estiment qu'il y a une seule volonté en Jésus. Ils ne vont pas jusqu'à dire qu'il n'y a plus qu'une seule nature, et que la divinité et l'humanité sont indistinctes, mais ils disent qu'il n'y a qu'une seule volonté en Jésus. Il ne peut pas y avoir la volonté humaine et la volonté divine la personne de Jésus prend les deux volontés? Ben non, parce qu'il ne serait pas vraiment un homme s'il n'avait pas une volonté humaine. Avec ses peurs, la peur de la mort, par exemple. Ou alors, le fait de pleurer, ou de se réjouir. C'est pas que Dieu rigole pas, puisque Dieu est l'humour infini et par excellence. Il a toutes les qualités, donc il est plein d'humour. Mais Dieu, si vous voulez, il peut pas rire dans le sens humain de l'étonnement. Il ne peut pas être étonné, il sait tout. Donc il ne rit pas dans ce sens-là. Il a une joie éternelle qui nous dépasse, il est plus joyeux que nous, et il est la joie. Mais pas à notre façon en ce qui concerne l'étonnement. Et quand on voit quelqu'un se balancer sur une chaise, tout d'un coup, hop, partir en arrière, ben on rigole. Bon, s'il se casse la tête et qu'il ne bouge plus, on rigole moins. Au bout de quelques secondes, fini. Voilà. Mais s'il se relève et fait, on dit, oh, tout le monde est plié de rire. Voilà. Mais c'est l'étonnement. C'est pas normal que l'homme tombe. Hein? Voilà. Et la sagesse vient de l'étonnement. On voit des silex s'entrechoquer et il y a des étincelles. Alors, donc on essaye, on fait. On voit l'électricité qui... Le début de l'électricité, ça a dû être le magnétisme. De voir des choses... Le magnétisme qu'il y a dans l'eau, on a vu des aimants tourner au-dessus d'un cours d'eau. Vous voyez, parce que le courant de l'eau provoque... C'est un courant électrique qui a son magnétisme. Vous voyez. Et puis les ingénieurs, c'est jusqu'aux ordinateurs, vous voyez. Eh bien, ici, notre Seigneur, lui, il va pleurer. Il va. Alors, on l'a pas. Alors, les jansénistes vont dire, Jésus, il a jamais ri. Vous lisez l'Évangile dans un sens, dans l'autre, il a jamais ri. Donc c'est un péché de rire. Alors voilà, donc ils se font opérer des zygomatiques, les jansénistes, et comme ça, ils sont pas tentés de rire. Avec les oreilles qui bougent, par contre. Mais voilà, et notre Seigneur s'est réjoui. Alors, il va pas rigoler comme une baleine. Hein. Il aura sa joie... Et d'une rare finesse, c'est sûr. Mais voyez-vous, il va vivre l'instant. Quand le centurion lui dit, est-ce que tu peux aller guérir mon serviteur ou ma fille? Je crois que c'est un serviteur, un enfant. Mais puer, ça peut être aussi un serviteur. Donc la traduction est ou enfant ou serviteur. Et le Christ dit, je vais chez toi. Et le centurion lui dit, un prophète du peuple hébreu, moi, romain, moi, je crois en la révélation à Abraham, donc il est prosélyte juif, tout en étant romain, et pour lui, il a un prophète, s'il connaît bien son catéchisme judaïque, il croit peut-être même aussi qu'il est le Messie, mais pour lui, un prophète ne va pas rentrer chez lui, enfin, il est merveilleux, il est là, il est sur le chemin. Déjà qu'il lui demande cette grâce, c'est déjà très bien. Et il lui dit, mais pas, non, 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 ne venez pas simplement. Il faut voulez-le. Comment c'est... Moi, quand je donne un ordre, il y en a un qui fait ça, il y en a un qui fait l'autre, qui fait ceci. Donc en soi, vous, en tant que prophète, exercez votre volonté et ça se fera. Et là, Jésus dit à tous ceux qui l'entourent, je n'ai pas vu autant de foi en Israël, parce que il croit vraiment que Dieu fait ce qu'il veut. Qu'un prophète, son serviteur, peut lui demander ce qu'il veut. Oui. Est-ce qu'il croit déjà que Jésus est le Messie, le Sauveur? Est-ce qu'il croit déjà qu'il est le Fils de Dieu et Dieu lui-même? Le fils du Père, voyez. Ça, c'est une révélation progressive. Enfin, le Christ le révèle tout de lui-même. C'est pas l'Église qui va inventer le fait qu'il est le fils du Père. Lisez Saint Jean et vous verrez la manière dont Jésus déclare « Le Père est en moi et moi dans le Père ». Enfin, il n'arrête pas de parler de la Sainte Trinité dans l'Évangile de Saint Jean. Il y a tout un développement. Il a profondément dit la Trinité aux apôtres. Saint Jean a mémorisé, l'Esprit Saint a rendu la mémoire de Saint Jean, et quand Saint Jean écrivait, c'est par l'inspiration divine. Et Jésus fait des développements sur son union avec son Père qui sont extraordinaires. Il y a dans le Christ deux opérations naturelles, selon sa nature divine et selon sa nature humaine. Il ressuscite les morts selon sa nature divine, et pas selon sa nature humaine. Les deux volontés du Christ ne se contredisent jamais. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne veux pas mourir. Ben oui, mais la volonté divine en Jésus, c'est aussi, c'est pas normal, il est innocent, je suis innocent. Il n'y a pas une contradiction, il y a une prière. Et le Père envoie l'ange, probablement Gabriel, pour le consoler. Parce que c'est injuste. Sa mort est injuste. Donc la volonté divine du Christ aussi répugne à la mort. Ça accomplit la justice, mais de manière gratuite et miséricordieuse. C'est un péché de plus. Le péché originel, c'est dire... On peut être Dieu sans Dieu, je peux exister sans Dieu, que Dieu meure, que Dieu sorte de ma vie, j'existe, je suis tout puissant. Voilà la pensée d'Ève et d'Adam. Hein. Donc c'est un péché de rejet de Dieu. Lucifer leur dit, vous serez des dieux si vous désobéissez. Vous échapperez à Dieu, à sa tyrannie. Il vous ment, il dit. Si on fait cet acte de l'expérience du mal, du bien et du mal, on mourra. Et Lucifer dit, vous ne mourrez pas. C'est-à-dire qu'il contredit la parole de Dieu. Il dit, non, 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 Dieu vous ment. Il dit, non, vous ne mourrez pas. Ah ben dis donc, jusqu'à preuve du contraire, j'ai plus 20 ans. Hein. Et à mon avis, d'ici 50 ans, je vais être en mauvaise santé. Je vais probablement mourir. Sauf si, avant, un petit... Voilà. Voilà. Alors, maintenant...